don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Hélène Paquet, Clément Salazar, Xavier Martinet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Élise Le. On poursuit notre série consacrée aux forêts. Aujourd'hui, nous allons parler de déforestation. De l'Amazonie au bassin du Congo, une monnaie d'échange diplomatique.
Comme vous pouvez le voir derrière moi, un bulldozer est en train de nettoyer la terre et d'arracher tous les arbres. Et ils vont faire pousser des palmiers à huile très bientôt. Comme vous pouvez le voir autour de moi, les jeunes palmiers à huile sont déjà plantés. Et bientôt, tous les arbres ici auront disparu et il n'y aura plus d'espoir pour la survie des orang-outans.
La forêt ne sera pas beaucoup réduite. C'est juste un changement administratif. Parce que la réalité sur le terrain montre que les villageois utilisent déjà beaucoup de terres.
Je dis qu'aujourd'hui, la forêt, c'est comme une ville. Elle peut contribuer à l'éducation, pour la santé, mais elle peut également apprendre aux personnes ce qu'est l'avenir, comment contribuer pour l'avenir.
Du Brésil à l'Indonésie en passant par le bassin du Congo, la déforestation, la protection des surfaces forestières, un enjeu global qui concerne tous les pays, ce qui fait de la forêt un objet au cœur d'enjeux diplomatiques, de rapports de force et de coopération entre les États, notamment dans le cadre des grands sommets internationaux sur le climat, mais pas seulement. Le 22 avril dernier, on apprenait qu'un fonds international, essentiellement soutenu par la Norvège, allait investir 190 millions de dollars en République démocratique du Congo pour la protection des forêts tropicales congolaises, en échange de quoi la RDC s'engage à protéger 155 millions d'hectares. C'est-à-dire près de 7% de sa forêt. Si on est encore loin du milliard offert au Brésil ces dernières années, ça faisait longtemps que Kinshasa attendait ce geste. L'accord signé au terme de longues tractations vise à encourager la RDC, l'un des États les plus pauvres de la planète, à mieux préserver ses puits de carbone 5 mois après la conférence de Paris sur le climat. Reste à voir ce qu'on pourra en attendre. On estime qu'à l'échelle de la planète, les forêts absorbent chaque année 9 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère, c'est-à-dire 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les forêts sont donc en première ligne dans la lutte contre le dérèglement climatique et les grands États forestiers l'ont bien compris et tentent régulièrement de les utiliser pour peser dans les négociations et obtenir des compensations financières. Alors 7 ans après la ratification du programme REDD à Copenhague en 2009, lors du sommet de Copenhague, quel est le bilan des crédits carbone, qui les utilise, de quelle façon ont-ils permis de ralentir la déforestation dans les 3 plus grandes réserves forestières au monde, c'est-à-dire en Amazonie, en Indonésie et dans le bassin du Congo. Actuellement, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. Pourquoi les tentatives de création d'un accord international contraignant sur les forêts a-t-il toujours échoué? Quelles avancées la déclaration de New York sur les forêts signée en janvier 2014 a-t-elle permis? La forêt constitue-t-elle une monnaie d'échange diplomatique? Voilà la grande question qu'on va se poser ce matin. Et pour ce faire, nous avons invité le directeur général de l'ONF international, Jean Guénolé-Cornet. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est donc la filiale à l'international de l'Organisation nationale des forêts que vous dirigez. Alors, on lit sur le site internet de l'ONF que l'ONF est un bureau de conseil et d'expertise en environnement spécialisé dans la gestion durable des écosystèmes, notamment forestiers, et la lutte contre l'effet de serre, proposant aux acteurs publics ou privés, et d'ailleurs il faudra en parler, des solutions intégrées et pragmatiques valorisant le rôle de la forêt et du bois dans le développement des territoires. On va commencer par un peu d'actualité, Jean Guénolé-Cornet, si vous le voulez bien, le 22 avril dernier. Il y a à peine un mois, se tenait à New York la cérémonie officielle de signature de l'accord sur le climat trouvé à Paris en décembre dernier. Il doit désormais être ratifié par tous les pays. D'ailleurs, je crois que les premières discussions au Parlement français vont commencer cette semaine. Presque 5 mois donc après ce sommet de Paris, que vous inspire le texte, les dispositifs, en particulier bien sûr sur la question forestière qui nous intéresse aujourd'hui, quand vous en avez pensé en tant que directeur général de l'ONF international?
Bonjour et merci. Ce texte
de la COP21 est une avancée importante dans un long processus qui a démarré en 92 au sommet de Rio sur la meilleure prise en compte des forêts, des écosystèmes de façon générale dans les grands enjeux globaux. Donc valoriser, prendre en compte les services environnementaux générés par les forêts qui ont toujours été générés par les arbres depuis l'origine du monde, mais qui n'étaient pas considérés au niveau global et à ce titre. Cette COP21 a permis de valider l'intégration des forêts dans les dispositifs de lutte contre le changement climatique, sans toutefois à ce jour en décliner les modalités pratiques. Et donc l'accord que vous mentionnez entre la Norvège et la RDC fait partie d'une volonté bilatérale de la Norvège et de la RDC et n'est pas inclus comme conséquence directe obligatoire du protocole de Kyoto. C'est un caractère exemplaire que la Norvège fait cela. Mais ça a permis d'inscrire donc la forêt dans les textes officiels, la forêt n'en sortira plus. Et puis également, ce qui était un autre aspect de la COP21, qui n'était pas forcément évident initialement, c'est de montrer l'importance de la société civile sur ces enjeux de changement climatique et notamment sur l'enjeu forestier. Les forêts sont un patrimoine important, partagé par la plupart des pays de la planète, qui revêtent des réalités très différentes entre les pays, et que la société civile souhaite, dans son ensemble, ainsi que la communauté politique, valoriser, mais avec des enjeux nationaux et locaux très divers en fonction de la nature des forêts.
Pour préciser un petit peu les choses, Jean-Guénot Lécornet, alors d'abord, il faut dire aux Nations Unies, la lutte contre la déforestation, ça a un nom, s'appelle REDD, c'est-à-dire Mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'est une initiative qui a été lancée en 2008, qui vise donc à mettre en place des systèmes de compensation pour les pays qui s'engagent à limiter la déforestation. On a eu ensuite une évolution REDD+. D'ailleurs, peut-être que vous pourrez nous préciser ce qu'il y a eu concrètement derrière tout ça. L'une des choses qui a été beaucoup discutée du côté du sommet de Paris, c'était de savoir s'il fallait inclure ce mécanisme REDD+, dans l'accord de Paris. Finalement, quelle place a-t-il ?
Alors, je vais vous répondre en faisant une petite digression pour bien donner l'ordre logique des choses. En 92, on dit l'environnement, c'est important, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'environnement. Le seul critère de la rentabilité économique n'est pas possible et les enjeux qu'il y a derrière ne sont plus des enjeux à l'échelle du bassin versant ou de l'État, mais des enjeux internationaux globaux à l'échelle de la planète, puisque l'atmosphère est une ressource commune et ce qui se passe dans un pays a des implications dans l'autre.
Donc prise de conscience.
Prise de conscience, voilà. C'est un effet déclencheur, aucune réalité derrière concrète, aucune obligation. 5 ans plus tard, c'était assez relativement rapide, rétrospective. Vous avez le protocole de Kyoto qui a été presque abattu par le refus in extremis des États-Unis en 1997, mais qui a permis, grâce à l'entrée de la Russie à ce moment-là, d'obliger ce qu'on appelle les pays développés qui ont volontairement ratifié ce protocole-là, de s'engager de façon contraignante, et c'est ça le point important, à réduire leurs émissions sur la base du niveau d'émission de l'année 1990. Il y a des enjeux, donc des positions stratégiques importantes entre les pays, puisque les enjeux en matière financière et en matière de contraintes sur le développement économique de certaines filières sont importants. Le secteur forestier a été volontairement tenu à la marge de ce protocole-là pour différentes raisons. La principale est liée à la complexité de la forêt. Et on revoit cette complexité dans les textes plus tard. La complexité de la forêt tient à un point important qui est le point de la non-permanence. Alors, il est important de mentionner ça pour comprendre pourquoi la forêt n'est pas inclue davantage dans les textes officiels, y compris de la COP21, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est important. Lorsque vous travaillez sur le secteur de l'énergie, qui contribue au changement climatique, comme le secteur de la déforestation, et que vous transformez une centrale à charbon en centrale à gaz beaucoup moins émettrice, ou à biomasse agricole beaucoup moins émettrice, à ce moment-là, ou au nucléaire, à ce moment-là, vous avez une réduction permanente d'émissions. C'est-à-dire que pour produire vos 3 kilowatts dont vous avez besoin pour faire votre cuisine, vous allez les produire avec de l'uranium et non plus avec du charbon. Et donc, vous allez, lorsque vous allez faire votre cuisine, évitez cette réduction de façon permanente. Lorsque vous plantez un arbre, l'arbre, en grandissant, va stocker du carbone. Mais si demain, vous avez un incendie qui passe dessus, ou si demain, l'arbre est coupé, ou si demain, l'arbre mort de sa mort naturelle retourne dans le sol et pourrit, une partie importante, voire la quasi-totalité du carbone séquestré dans l'arbre, va retourner à l'atmosphère. Et donc, vous avez une non-permanence du stockage de carbone dans les arbres. Ce qui a rendu extrêmement difficile pour les acteurs politiques et économiques l'intégration des forêts dans les dispositifs contraignants de lutte contre le changement climatique, quand bien même tous les acteurs étaient d'accord pour en dire l'importance.
Enfin, tous les acteurs étaient d'accord pour en dire l'importance, mais certains voulaient qu'on inclue justement les forêts dans cet accord-là.
Tout à fait. Donc, le protocole de Kyoto...
On va parler tout à l'heure de l'Afrique, de la RDC, c'était le cas, par exemple.
Tout à fait. Donc, le protocole de Kyoto en 1997 va avoir une vertu, en l'occurrence. Il va manifester cette difficile compatibilité. Il va obliger, je veux dire, les chercheurs, les bureaux d'études, et l'ONF y a beaucoup contribué, à identifier les méthodologies de comptage du carbone dans les arbres, ce qui n'est pas simple, et identifier des techniques, des méthodes, des approches, des certifications qui permettraient de garantir que ce stock de carbone généré dans une plantation ou dans une forêt ne va pas être retourné dans l'atmosphère, ou s'il est retourné dans l'atmosphère, à ce moment-là, il sera à nouveau décompté. Donc il y a tout un travail important qui a été fait depuis 1997 grâce au protocole de Kyoto, notamment grâce au mécanisme de développement propre. En 2009, vous avez mentionné, donc à la suite à la conférence de Bali, les pays qui ont des processus de déforestation importants, la troisième cause du changement climatique, ont demandé et ont redemandé que la forêt soit prise en compte de façon à ce que leurs efforts de lutte contre la déforestation soient rémunérés par la communauté internationale au titre de leur contribution au changement climatique. Et là est né justement ce processus RED. Alors, c'est assez intéressant de voir le processus. Ce processus REDD considère que le principal enjeu est d'éviter la déforestation. D'abord, c'était RED. On évite la déforestation. Le premier D, c'est déforestation. Puis, les pays qui disent, nous, on n'a pas de déforestation massive, mais on a une dégradation de la qualité et de la quantité de carbone dans nos forêts. Typiquement, l'exploitation des forêts d'Afrique centrale, lorsqu'elle n'est pas réglementée suivant un plan d'aménagement, va entraîner non pas une déforestation, vous ne passez pas de la forêt à un terrain nu, mais une perte de carbone puisque vous avez beaucoup moins d'arbres. Donc il y a eu un deuxième dé qui a été rajouté. Puis les pays qui ont dit mais nous on n'a pas de grand potentiel forestier, les pays méditerranéens du Sahel par exemple, qui ont des climats très 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 secs qui ne permettent pas d'avoir des volumes de carbone dans les forêts importants, m'ont dit mais nous on a du carbone dans le sol et on est capable grâce au mode de culture d'augmenter ou de réduire ce carbone dans le sol qui contribue tout autant suivant une modalité différente que la forêt au changement climatique. Et c'est là qu'est né le plus, l'intégration de ce carbone dans le sol et des reboisements. De la même façon que la déforestation évitée génère des émissions, évitée, le reboisement génère des absorptions.
Voilà qui est beaucoup plus clair. Déforestation, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots quelles sont les zones dans le monde où les ressources forestières sont les plus menacées et quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui ? Donc on ait un peu une géographie un peu générale de la déforestation.
Tout à fait. Donc en gros, le quart de la planète est couvert de forêts. Vous avez donc les grands massifs forestiers se trouvent en volume d'abord dans la ceinture boréale, le nord. Donc on est essentiellement Canada, Russie, Scandinavie. Et puis le deuxième gros volume se trouve au niveau de l'équateur, l'Amazonie, le bassin du Congo et l'Indonésie. Et puis vous avez des massifs forestiers répartis notamment en Europe, aux États-Unis, dans l'Amérique du Sud, en Afrique du Sud, etc. En fonction de la latitude où vous vous trouvez, les forêts sont très différentes dans leur physionomie et donc les enjeux, les contextes socio-économiques sont différents et les enjeux autour de la forêt sont très différents. Il n'y a pas de commune mesure, si ce n'est l'étalon carbone, entre la forêt du nord de l'Algérie et la forêt du centre de la RDC. Pourtant, les deux sont importantes. Et donc, les grands enjeux de déforestation se trouvent essentiellement dans la ceinture tropicale. Donc, à commencer par le bassin amazonien où le Brésil a fait des efforts remarquables sur les 10 dernières années, qui doivent continuer. Au niveau du bassin du Congo, où le niveau de développement des pays aujourd'hui fait que la déforestation et la phase dans le processus de développement des pays fait que la déforestation est encore limitée, mais elle existe. Vous avez quand même, et c'est important de mentionner, des zones du bassin du Congo où la forêt gagne, dans des zones de savane liées à une certaine évolution du changement climatique. Et puis l'Asie, qui est un processus qui est dans une phase de développement sensiblement plus avancée, avec un processus de déforestation qui, de fait, on le regarde dans l'histoire, suit souvent les phases de développement des pays, avec une zone de creux que la France a passé, dans lequel l'Asie est en train de passer et sur lequel le Brésil se trouve et dans lequel la RDC, le bassin du Congo, n'est pas encore parvenu.
Ah oui, tout l'enjeu, c'est de développer les pays en limitant, bien sûr, ce phénomène de déforestation qui souvent va avec. La diplomatie forestière, est-ce que ça a un sens de parler de diplomatie forestière ? Depuis cette fameuse prise de conscience de 92 au sommet de Rio, est-ce qu'on peut dire qu'a émergé ces 20-25 dernières années une diplomatie forestière ? On a l'impression que oui, on va parler tout à l'heure de la RDC qui a fait beaucoup d'efforts en la matière et qui d'une certaine manière la récolte les fruits de ses efforts, puisque la Norvège a mis de l'argent sur la table, la Norvège l'avait fait également avec le Brésil, on va en parler aussi. Est-ce qu'il existe une diplomatie forestière ? Est-ce qu'on joue de sa forêt dans les relations internationales ?
On peut dire que oui. c'est vraiment l'enjeu, la contribution de la forêt au changement climatique qui a fait naître une diplomatie forestière qui n'existait pas historiquement. On peut mentionner à titre anecdotique que les forêts françaises ont commencé à être protégées il y a 700 ans suite à une ordonnance royale au titre de l'importance de la protection des forêts pour garder des gros arbres pour la construction navale. Donc on peut dire que déjà à cette époque-là, il y avait un certain enjeu stratégique des forêts, mais on le retrouve pas. On le retrouve pas. Et d'ailleurs, on aurait pu penser que les grands pays forestiers qui partagent des écosystèmes communs auraient mis en place des méthodes ou des approches communes de gestion des forêts. Il en est assez peu de choses. Hein. Le cas de l'Afrique centrale est remarquable à ce sujet-là, mais la plupart des massifs forestiers ont été traités de façon différente. Donc c'est vraiment l'enjeu carbone, l'enjeu de la contribution des forêts qui a été l'initiateur de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la diplomatie des forêts.
Et d'ailleurs, on le retrouve encore aujourd'hui. Écoutez, par exemple, à la COP21, Vladimir Poutine, qui avait vanté les efforts de son pays pour lutter contre le changement climatique. Écoutez.
La Fédération de Russie a pris des mesures actives pour faire face au problème du réchauffement planétaire. Notre pays figure parmi les premiers au monde à avoir réduit la consommation d'énergie de son économie. Et ce, au cours de ces dernières années. Et nous l'avons fait grâce à la mise en place d'un programme de conservation et d'efficacité énergétique. Et nous avons l'objectif de parvenir à de nouvelles réductions de quelques 13% supplémentaires d'ici quelques années. Nous avons également honoré nos obligations en vertu du protocole de Kyoto et ce, pour la période 91. Jusqu'à maintenant, nous avons réduit très largement nos émissions de gaz à effet de serre et ce sont quelques 40 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 qui ont ainsi pu être évitées. Et je puis vous dire, mesdames et messieurs, que les émissions de gaz à effet de serre de tous les pays ont représenté 60 milliards de tonnes. On peut donc dire que les efforts de la Fédération de Russie ont permis de freiner le réchauffement climatique de près d'un an.
Voilà, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre et donc atteint nos objectifs de Kyoto. La Russie a freiné le réchauffement climatique tout en augmentant le PIB, on entendait Vladimir Poutine, et nous allons poursuivre nos efforts. Sauf que ce que ne dit pas le chef du Kremlin, c'est que l'effondrement du bloc soviétique a provoqué la désindustrialisation de la région et donc la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais de surcroît, quand il affirme que son pays va réduire les émissions de gaz à effet de serre, en réalité, la Russie, elle mise précisément sur les capacités d'absorption en CO2. De ces forêts. Donc en gros, on s'appuie, et là la Russie est vraiment de ce point de vue-là peut-être un exemple, on s'appuie sur les puits carbone naturels pour au fond réduire ces émissions de gaz à effet de serre, mais sans véritablement changer de politique.
Absolument, je crois que vous touchez du doigt un sujet qui est très important, qui a trait à la politique des pays face aux enjeux du changement climatique, qui ont des répercussions et vont avoir des répercussions sur l'économie des pays, on le sait, et la position des forêts dedans. Je voudrais juste mentionner un élément avant de détailler, c'est le fait qu'il faut bien faire la différence entre une forêt qui est un stock de carbone, et une forêt en croissance qui est un puits de carbone, et une forêt en décroissance ou qu'on déboise et qui est une source de carbone. Donc un stock de carbone, l'enjeu, c'est de ne pas transformer en source. Mais tant qu'il est en stock, si le stock reste le même, il n'y a pas de contribution ni positive ni négative au changement climatique. Alors qu'une forêt qui croît, contribution positive, une forêt qui décroît, contribution négative. La Russie n'a pas une forêt qui a cru substantiellement pendant la dernière période. Par contre, elle constitue un stock de carbone très important. Il est évident que si elle mettait en place une politique qui entraînait une déforestation massive, tout ce stock-là passerait dans l'atmosphère et ce serait donc des émissions très importantes. L'enjeu qui est très important, et je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là, c'est que de comprendre que les émissions, les pays ne peuvent pas se développer à certaines phases de leur développement et dans certains pans de leur économie sans générer des émissions. Or, les pays sont les uns les autres à des phases de développement différentes. Il est donc impossible de demander les mêmes efforts à des pays différents, à des phases de développement différentes. Et c'est ça toute la difficulté. Et on le voit donc dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, on le voit dans le domaine de la forêt. Je vous mentionnais le bassin du Congo, aujourd'hui une déforestation faible, qui est d'abord liée à un niveau de développement, une phase de développement économique qui est lente, qui est progressive, qui est relativement faible. Il est impossible que le bassin du Congo, lorsqu'il arrivera dans une phase de développement économique plus forte, n'entraîne pas une certaine déforestation. Pour illustration, aujourd'hui, dans l'Amazonie brésilienne, un hectare de terre déboisée vaut plus qu'un hectare de terre boisée sur le front de déforestation. Pour vous donner, la forêt est là, rend impossible un certain développement des pays dans une certaine phase de développement. Et la France est un bon exemple. Nous avions deux fois moins de forêt en France il y a 250 ans qu'aujourd'hui. Donc le positionnement des pays Et donc, il y a un truchement, il y a un jeu diplomatique important.
Mais ce qui explique, pardon de vous couper, que d'une certaine manière, la France n'est pas sur des positions radicalement différente de celle de la Russie, finalement. Celui qui dispose de puits de carbone, comme on les appelle, et dont les surfaces forestières augmentent, d'une certaine manière, suit aussi cette posture de la Russie. Et l'Union européenne est dans ce cas, et la Chine est dans ce cas.
Alors, la Chine est
ce qui en fait des alliés diplomatiques, d'une certaine manière.
La Chine n'est pas tout à fait dans le même cas. La Chine sait qu'elle va avoir encore une phase d'augmentation substantielle de ses niveaux d'émissions pendant les 20 ou 30 prochaines années. Et c'est pour ça que la Chine tente de reporter les définitions d'un accord global à une ou deux décennies, de façon à parce qu'elle pense, et probablement légitimement, qu'elle sera plus forte à ce moment-là pour peser sur la scène internationale, et deuxièmement, qu'elle aura passé ce pic de d'émissions liées à sa phase de développement. Ce n'est pas le cas de la France, qui est à une phase ultérieure dans son processus de développement.
De l'Amazonie au bassin du Congo, une monnaie d'échange diplomatique, c'est notre sujet ce matin avec Jean Guénolé-Cornet.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Et on va prendre justement la direction du bassin du Congo, l'autre poumon de la planète, 2 millions de kilomètres carrés, partagés entre 6 pays, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et la RDC, évidemment, des surfaces forestières menacées aujourd'hui.
Au début, quand les compagnies d'exploitation forestière sont arrivées sur nos terres, je me suis dit que notre situation allait s'améliorer, qu'ils allaient faire des choses positives pour la communauté. Mais jusqu'à maintenant, nous souffrons de leur présence.
On pensait que nos vies changeraient, que les personnes sans emploi allaient enfin trouver du travail. Mais rien de tout cela n'est arrivé.
En Afrique, les ancêtres, les gens, les forestiers, ils ont toujours veillé à protéger la forêt. Parce que d'abord, ils n'ont pas d'instruments pour aller couper les gros arbres. Je parle surtout des multinationales, des industriels qui viennent en Afrique juste pour couper le bois. Les camions qui passent à longueur de journée avec plein de charbon, plein de bois et plein de gros arbres, on se dit qu'est-ce qui va rester dans la forêt au bout de quelques années ?
Et oui, qu'est-ce qui va rester de ce deuxième bloc forestier tropical au monde ? Une zone où la déforestation donc est particulièrement inquiétante. On va accueillir un nouvel invité par téléphone, c'est Symphorien Ngolo, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'université Göttingen. Vous travaillez sur l'usage des terres et des ressources naturelles dans un contexte de globalisation. Vous êtes également membre du think tank Africa, du Thinking Africa. Et puis vous êtes auteur d'une thèse qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, les politiques d'usage des terres forestières dans la gouvernance environnementale globale. On va revenir, Symphorien Ngolo, si vous le voulez bien, sur l'actualité. Avril dernier, la RDC et la Norvège signent un accord pour protéger la forêt du Congo de 100 millions de dollars, 190. En fait, c'est donc un partenariat qui regroupe 6 pays de la région et une coalition de bailleurs. Mais c'est vrai que la Norvège occupe une place dans tout ça très importante. Ça fait longtemps que la RDC se place, disons, en modèle dans la lutte contre la déforestation, officiellement en 2012, qu'elle s'est engagée dans ces fameux mécanismes REDD. Pourquoi l'accord intervient maintenant ? Est-ce qu'il y avait urgence, vous semble-t-il, à envoyer un signal à un pays qui produit de véritables efforts et qu'on n'avait peut-être pas encore suffisamment encouragé, en tout cas en monnaie sonnante et trébuchante, Symphorien Ngolo ?
Oui, alors je pense en effet qu'il était probablement temps que la RDC soit un peu associée, on va dire, à cette initiative d'accord de partenariat pour le financement public, parce que là il s'agit bien de financement public pour la réduction de la déforestation, parce que la RDC commençait, comme beaucoup de pays d'Afrique centrale, commençait un peu à avoir l'impression de subir une certaine marginalisation, voire une négligence des bailleurs de fonds, parce que le taux de déforestation, comme cela a été dit, est encore faible dans cette région. Et donc c'était en effet opportun, sans doute maintenant, de donner un signal fort pour dire qu'il compte néanmoins.
Victor Kabengele, qui est le coordinateur congolais national de lutte contre la déforestation, a déclaré la chose suivante. Cet accord va nous permettre d'engager des réformes clés sur l'utilisation de terres et de droits fonciers, puis d'agir sur tous les moteurs de la déforestation. Très concrètement, qu'est-ce qui va changer pour la RDC ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet argent ?
Bon, alors, arrimer la RDC à ce système de financement public est une chose. Maintenant, savoir si ça va réellement avoir une influence concrète sur le terrain, ça c'en est une autre.
Vous avez des doutes ?
Et je pense qu'il faut raisonnablement avoir des doutes pour diverses raisons. D'une part parce que l'enveloppe qui est proposée à la RDC, je souligne qu'il s'agit encore là de, on en est encore à une phase de promesse, hein. Donc cette promesse de 200 millions de dollars ne représente pas du tout les aspirations, la prétention financière qui était avancée par le gouvernement congolais il y a encore quelques années. On en était à des estimations de la part du gouvernement congolais de l'ordre de 1 à 3 milliards de dollars. Là, on en est à 200 millions de dollars. Donc,
oui, mais il y aura d'autres tranches qui vont venir. Ça, c'est la première tranche d'aide. Et puis ensuite, d'autres viendront si, bien sûr, les résultats sont au rendez-vous. C'est ça qui est prévu.
Oui, absolument. Il est prévu pour cette tranche de 200 millions, une deuxième, enfin, le décaissement de la deuxième tranche prévue en 2018, je crois, va se faire après bilan. Mais bref, les doutes, c'est non seulement du fait de ce décalage entre les aspirations du pays récipiendaire et la main tendue des bailleurs. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la capacité structurelle de l'État congolais à réellement faire basculer son rythme de déforestation vers une tendance assez faible, enfin à maintenir la tendance faible, parce qu'on n'en est pas encore à un taux de déforestation élevé. Et on a un État qui est quand même relativement assez déstructuré et peine à maîtriser le plan contrôle de toutes ces terres forestières. Donc ça, c'est difficile à dire si cet argent qui va être injecté au niveau central pourra avoir une influence réelle sur les dynamiques de déforestation qui, dans la plupart des cas, sont assez informelles quand même à l'intérieur du pays.
Mmh. Et au-delà de la RDC, vous dites que globalement, dans les pays africains concernés par cette question des ressources forestières et de leur gestion, les politiques ont beaucoup de mal à mettre en place des politiques publiques qui ne font pas, qui ne leur profitent pas, disons, immédiatement. Ce qui d'ailleurs n'est pas une spécificité africaine. Hein. On dit, nous aussi, nos responsables politiques, qu'ils manquent beaucoup de vision. Mais c'est un défaut qui peut quand même s'avérer extrêmement handicapant quand on essaye de mettre en place des politiques durables à long terme. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre encore longtemps, très longtemps, avant qu'émerge une réelle politique publique de protection des forêts, de nature justement à pas tomber dans cette dynamique de diminution des surfaces. Pour le dire autrement, est-ce que vous, pour se développer, la RDC va pouvoir échapper à la déforestation? Voilà, c'est plus simple comme ça.
J'ai envie de dire, une réponse assez rapide là-dessus, je pense que non. La RDC, comme la plupart des pays d'Afrique centrale, n'échapperont pas, ne pourront pas, je dirais même ne veulent pas pour l'instant renoncer durablement à la conversion des terres forestières pour une raison simple, hein, qui a déjà été partiellement évoquée, c'est-à-dire que le gros des ressources naturelles sur lesquelles les pays d'Afrique centrale comptent pour amorcer une certaine phase de développement substantiel, ces ressources naturelles-là sont soit sur des terres forestières, donc les terres arables, vont être alloués aux entreprises agro-industrielles palmiers, dont le palmier à huile, entre autres, ou alors vous avez une bonne partie des ressources dans le sous-sol forestier, ça peut être le pétrole ou les mines, et l'extraction de ces ressources-là, bien évidemment, appelle à une conversion d'usage des terres forestières. Donc, pour cette raison-là, déjà, on peut se dire que, voilà, il faut être modeste sur les attentes qu'on peut espérer de cette initiative de financement de lutte contre la déforestation. Néanmoins, on peut à peu près essayer d'influencer une meilleure gouvernance, ou plutôt un meilleur gouvernement de la déforestation dans ces pays-là, en essayant précisément de mettre des investissements assez, assez consistants là où il y a besoin de manière urgente, en l'occurrence, une capacité étatique réelle à appliquer les lois, parce que le gros n'est pas de créer de nouvelles lois, mais il faut déjà en appliquer l'existant.
Oui. Oui, surtout qu'évidemment, ces États sont parfois assez impuissants face à des multinationales qui, bien souvent, enfin à peu près ce qu'elles veulent ou quasiment, alors commencent pas à se laisser dépasser, évidemment, par des intérêts privés qui vont pas toujours dans le sens de la protection des forêts. C'est une grande question. Jean Guénolé-Cornet, réaction peut-être, et puis sur cet accord en particulier, cet argent qui va être versé par la Norvège à la RDC.
Alors, je confirme, en tous les cas, j'ai le même point de vue que
Symphorien-Ongolo.
Que Symphorien-Ongolo. Sur ce point de vue, le fait est que la grande difficulté des forêts par rapport aux autres secteurs, c'est qu'il est multisectoriel. Donc en fait, la forêt touche à tout. Ça touche à l'agriculture, ça touche aux mines, ça touche au transport, ça touche à l'énergie. Et donc de demander à un pays d'éviter sa déforestation, de jouer sur ses forêts, c'est dans les faits lui demander de se renforcer sur l'ensemble de des principaux secteurs de son économie. Il est évident que c'est quelque chose qui prend du temps.
Ça avait fonctionné pour le Brésil. Il y a quelques années, le Brésil et la Norvège avaient annoncé un partenariat à peu près de même nature, qui était même beaucoup plus important, puisqu'il s'agissait là de 1 milliard de dollars entre 2008 et 2015 pour aider le Brésil à préserver sa forêt. Quand on regarde les choses, la déforestation, elle a beaucoup diminué au Brésil. Alors, c'est vrai que sur l'année dernière, elle a un tout petit peu réaugmenté, mais disons que la dynamique globale sur les 10 dernières années est plutôt bonne. Ça veut dire que ce système de compensation semble fonctionner.
Le Brésil n'a pas compensé sa forêt d'abord en reconnaissance de l'argent versé par la Norvège et par la communauté internationale.
D'accord, elle n'avait pas besoin de ça.
Le Brésil était dans une phase de développement avec un niveau de gouvernance et d'organisation du pays qui est autre que celui du bassin du Congo, et avec un niveau de déforestation qui était tout à fait autre. Donc c'est beaucoup plus facile de réduire une déforestation très importante que de réduire une déforestation aujourd'hui très limitée, ou de prévenir une déforestation à venir qui reste hypothétique. Et puis le Brésil avait les moyens et a eu effectivement une politique volontaire pour pouvoir enrayer ce processus de déforestation très important qu'ils ont eu.
Donc ce milliard n'a pas eu d'effet sur la déforestation?
Je ne peux pas dire qu'il n'ait pas eu d'effet, bien sûr que s'il a eu un effet, mais ce n'est pas le milliard qui a fait que le Brésil ait pris cette décision. D'ailleurs, ce processus de déforestation avait été entamé avant 2008, et on en voit encore les conséquences au niveau du Brésil, et le pays, concrètement, a les moyens de mettre en place à la fois des aides et à la fois un système de contrôle qui lui permet de suivre ça. Le Brésil, par exemple, a un système de suivi par satellite de son territoire forestier autonome brésilien que les autres pays n'ont pas de façon autonome de la même manière. Alors je pense qu'il y a un deuxième élément quand même qui est important, c'est le coût d'opportunité du foncier. C'est-à-dire que la forêt ne produit pas économiquement comme l'agriculture. Elle produit pas économiquement comme la mine, largement. Et donc, vous êtes en face de coûts d'opportunité tels, de recettes telles à tirer, qu'il est très difficile de réduire ou d'éviter tout changement d'usage des sols au détriment des forêts. Et je crois que ça, c'est tout à fait important. Et devant ce constat-là, de la complexité de demander à un pays, et l'impossibilité, voire de demander à un pays de réduire durablement sa déforestation, la communauté internationale tend vers un système de paiement pour résultat. C'est-à-dire que, plutôt que de dire « je vous paie pour faire telle et telle réforme structurelle », qui d'ailleurs est du niveau de la gouvernance du pays, c'est plutôt de dire « on estime que sur une trajectoire normale, votre taux de déforestation sera celui-ci. » Eh bien, toute évolution positive par rapport à ce taux de déforestation, qui lui aussi est soumis à de nombreuses hypothèses avec des enjeux forts derrière, sera payée par la communauté internationale à un valeur pro rata de la tonne. Et c'est l'évolution qu'on sent des mécanismes carbone aujourd'hui.
Faire payer par la communauté internationale, pour l'instant, c'est le pays qui met beaucoup la main à la poche, c'est la Norvège, les autres beaucoup moins. D'ailleurs, un certain nombre de pays s'étaient engagés à Copenhague à verser de l'argent. Je crois que c'était 3,5 milliards de dollars à l'époque. Il y avait les États-Unis, il y avait l'Australie, il y avait la France, la Grande-Bretagne, le Japon et la Norvège. Ils étaient 6. Pour le moment, c'est beaucoup la Norvège qui paye. Et alors justement, et puis ensuite, j'aurai une question à Symphorien-Ongolo, mais on voit que cette Norvège, elle est derrière quasiment tous les grands programmes, en tout cas de protection des forêts, en tout cas beaucoup. Il y avait le Brésil, il y a là maintenant la RDC, il y avait aussi, je crois, l'Indonésie. Quel intérêt pour la Norvège? Alors vous me direz, ils ont de l'argent, très bien, il y a la manne pétrolière qui est là, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle gagne en retour du point de vue diplomatique?
Alors, je vous donnerai un élément de réponse. Je pense que la première chose, il faut se souvenir que la Norvège est un pays forestier, hein, qui est essentiellement couvert de forêts, donc il y a une tradition forestière en Norvège, même si la forêt est bien différente de celle du bassin du Congo. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, ils ont de l'argent. Et la troisième raison, c'est que la Norvège s'est exclue elle-même de l'Europe. D'un certain nombre de dispositifs internationaux pour des raisons d'intérêt du pays. Et donc cet élément-là, on sait bien d'ailleurs que les pays scandinaves ont une sensibilité environnementale marquée, donc cette posture politique proactive sur ce sujet-là fait de la Norvège une figure de leader dans ce il y a un positionnement politique volontariste de la Norvège, d'être un petit peu le pays leader des références, et qui peut bien se comprendre, hein, parce que pourquoi entend-on parler de la Norvège aujourd'hui? Et entendrait-on parler de la Norvège aujourd'hui sur la communauté internationale s'il n'y avait pas ce sujet lié à la protection, lutte contre la déforestation et le changement climatique? Donc il y a un positionnement sur la scène internationale du pays, de la Norvège, sur ce dossier-là, qui est probablement la raison principale de sa mobilisation.
Donc c'est pour faire entendre sa voix finalement aussi. Symphorien Ongolo, au début du mois s'est tenue une session extraordinaire à Kinshasa de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFA, qu'il était notamment question de mesurer ce que seront les implications des accords de la COP21 sur le bassin du Congo et évidemment sur cette question de la gestion des ressources forestières. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement cet accord de Paris sur les ressources forestières de la RDC?
Oui, alors l'accord de Paris par rapport à l'Afrique centrale, au pays du bassin du Congo, je dirais que c'est... encore une fois, on peut prendre ça comme une incitation à mieux faire, mais ce sera probablement pas l'élément déterminant à mon avis, parce que l'accord de Paris ne crée pas de nouvelles lois, ne crée pas de nouvelles dispositions. Et, je ne vais pas revenir sur le mécanisme des INDC qui était un peu les intentions nationales de chaque pays à dire ce qu'il veut faire. Et il se trouve que dans la plupart des pays du bassin du Congo, c'est clairement dit quand même dans ces documents-là que l'idée est de progresser en termes de développement, et donc ce développement-là va s'adosser sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc l'accord de Paris, à mon avis, peut servir un peu de soutien à l'application des quelques mesures qui sont déjà dans les lois nationales. Mais l'élément déterminant, à mon avis, va être au niveau intérieur. Hein. C'est-à-dire que soit il y aura une espèce de structure de société civile et de dynamique citoyenne qui va pousser les décideurs à gérer mieux ce patrimoine national-là, ou alors espérer qu'il y ait une classe dirigeante qui soit davantage soucieuse du long terme que du court terme. Mmh.
La COMIFAC, justement, la Commission des forêts d'Afrique centrale, elle a été créée il y a une quinzaine d'années, en 99. C'était par la déclaration de Yaoundé, à l'issue du sommet des chefs d'État du Cameroun, République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Elle affirme donc l'engagement des signataires à travailler en collaboration pour promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Quel regard vous portez sur cette coopération? Est-ce que ça fonctionne?
Je pense que c'est clairement un point positif, la COMIFAC, l'existence en elle-même de la COMIFAC est un point positif, dans le sens où ça donne une espèce de dynamique régionale, à une gouvernance régionale sur la question des forêts. Et vous avez vu, on parle depuis le début de l'émission en termes de bassin d'Amazonie, bassin du Congo. Dans le bassin du Congo, ça permettrait, si ça fonctionnait comme cela se devait, d'avoir une dynamique assez coordonnée de la gestion des espaces forestiers, puisque la plupart de ces espaces sont assez contigus entre les pays. Mais le fait est que la COMIFAC est clairement un organisme faible à ce jour, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de réelle incidence ou d'influence sur les politiques publiques nationales. Les politiques publiques nationales continuent de fonctionner un peu en ignorance de ce qui peut se décider au niveau de la COMIFAC.
Et pour quelle raison? C'est parce que on veut garder d'une certaine manière sa souveraineté sur ces questions-là, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de mettre en commun finalement et de coordonner différentes politiques?
Oui, je dirais qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'au niveau des moyens, déjà de la question de la souveraineté, c'est-à-dire que c'est quasi une intuition pour les pays, on voit ça avec l'Union européenne, parenthèse refermée, où les gouvernements ont toujours tendance à se recentrer un peu sur une action souveraine lorsqu'il s'agit de céder un peu une part de cette souveraineté pour une action coordonnée à l'échelle régionale. Donc il y a déjà ça au niveau de la COMIFAC. Deuxièmement, je pense que c'est certainement l'élément le plus déterminant qui cause un peu la fragilité de cette institution, c'est qu'elle ne bénéficie pas d'un réel soutien des États membres. C'est-à-dire que la plupart des États membres, si on prend ne serait-ce que le financement de cette institution, la COMIFAC est majoritairement sous subvention de bailleurs de fonds extérieurs à la région Afrique centrale.
Alors justement, et je vous coupe parce que ça c'est une question très importante, Symphorien Ongolo, pourquoi est-ce que finalement, est-ce que plutôt que de donner de l'argent à la RDC, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de donner de l'argent à la COMIFAC? On s'interroge beaucoup sur les effets que vont avoir ces 190 millions de dollars. Vous nous dites là que cette COMIFAC, en partie, elle ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas financée par ces États-là. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de financer la COMIFAC?
Je pense qu'on aurait mieux fait, entre autres, peut-être pas de financer seulement la Comifarc, mais de prévoir une portion de ces financements à des dynamiques régionales. C'est le cas de la Comifarc, c'est le cas du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Il y a beaucoup d'institutions régionales en Afrique centrale qui gèrent les forêts. Du point de vue institutionnel, c'est extrêmement innovant, la dynamique institutionnelle régionale en Afrique centrale. Mais je pense que alimenter comme ça à gros frais le budget de la Comifarc, encore une fois par des bailleurs extérieurs, ne résout pas le problème. Le meilleur signal d'intérêt politique, enfin, je ne vais pas parler de volonté politique, peut-être qu'ils en ont, mais le réel intérêt politique des décideurs locaux serait d'apporter des subventions nécessaires au fonctionnement de cette institution-là. Ça, ce serait la meilleure façon de prouver qu'il y a un souci réel de se coordonner. Ça, c'est le cas, oui, voilà.
Jean Guénolé-Cornet, une réaction, et puis ensuite on ira du côté du Brésil pour parler de ce Cerrado oublié, parce qu'on parle beaucoup de la forêt tropicale, mais beaucoup moins du Cerrado, et on va en parler dans un instant avec Stéphane Guénot.
Je vous propose de vous faire la transition en comparant le fonctionnement de la Comifarc, sur lequel je suis d'accord avec ce qui a été exposé, avec l'organisation un peu parallèle, qui est l'organisation du traité de coopération amazonienne, dont la constitution est antérieure à celle de la Comifarc, mais sur lequel on a eu les mêmes difficultés, et principalement la première, qui est savoir que les pays n'ont pas souhaité que, et c'est pas d'abord un problème de financement, de capacité de financement sur l'Amazonie, c'est un problème politique. Les pays n'ont pas souhaité se défaire d'une certaine souveraineté nationale pour permettre à un organisme supranational de traiter de ces sujets-là. Et donc, en l'occurrence, l'organisation du traité de coopération amazonienne est relativement inopérante. Elle n'opère même pas ce que fait la Comifarc, c'est-à-dire d'être un chapeau sur les questions forestières.
Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Merci beaucoup. Vous faites oui de la tête parce que les auditeurs ne voient pas l'image, mais vous opinez du chef. Symphorien Angolo, un grand merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. On va s'intéresser donc au Cerrado, parce qu'au Brésil, quand on parle de la problématique forestière, on pense immédiatement à la forêt amazonienne, sauf qu'en réalité, c'est pas la seule ressource forestière du territoire. À côté de cette forêt tropicale, on trouve ce qu'on appelle le Cerrado, donc une région de savane qui s'étend sur plus d'1,5 million de kilomètres carrés, depuis les frontières méridionales de la forêt amazonienne au secteur périphérique dans le sud-est des États de Sao Paulo et de Paraná.
Aqui a gente está fazendo um manejo, né, e trabalhando com muitas plantas. Hoje a gente tem mais de 60 espécies de plantas, né?
Nous travaillons avec beaucoup de plantes. Nous en avons à présent plus de 60 variétés que nous plantons et entretenons sur nos terres.
Introduzindo, né, plantas que são mais.
Nous introduisons aussi de nouvelles plantes, plus résistantes et mieux adaptées aux conditions climatiques. Car nous assistons à un nouveau phénomène. La pluie se fait toujours plus rare. Cela nous amène à utiliser des plantes qui peuvent survivre avec peu d'eau.
Et pour parler de ce Cerrado, on va prendre la direction de Brasilia. On va retrouver Stéphane Guénot qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct, ce qui explique le petit décalage. Vous êtes chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et vous êtes également chercheur associé à l'Université de Brasilia. Ça fait, je crois, 3 ans que maintenant vous êtes à Brasilia, mais vous travaillez au Brésil depuis plus de 20 ans, je crois. Ce Cerrado, c'est vrai que c'est un écosystème dont on parle relativement peu, en tout cas comparé à l'Amazonie, et pourtant, sa place, son rôle sont absolument décisifs.
Oui, absolument. On en parle très peu parce que il y a eu une activité très forte des ONG environnementales sur l'Amazonie, qui était donc vraiment le biome phare à préserver, avec une activité politique de certains leaders charismatiques, le chef Raoni, le leader de Seringueiros, Chico Mendes, ce qui fait qu'on a concentré essentiellement la coopération internationale, l'activité des ONG internationales sur l'Amazonie, et ceci au détriment du Cerrado, dont on parle très peu.
Quelles sont les menaces qui pèsent sur ce Cerrado, justement, parce que on dit qu'il a déjà perdu 50% de sa surface originelle et que près de 15 000 km² de savane sont convertis chaque année en terre agricole. C'est le cas?
Oui, absolument. On n'est pas tout à fait à 50% sur les derniers chiffres dont on dispose. Bon, il faut savoir aussi que contrairement à l'Amazonie, où il y a un suivi régulier de la part de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, un suivi de télédétection donc par image satellitaire, n'a pas actuellement un système équivalent sur le Cerrado. Il va démarrer actuellement parce qu'on se rend compte seulement depuis quelques années que effectivement là, près de la moitié de la végétation native a disparu dans le Cerrado. Hein, ça concerne quand même 25% du territoire brésilien, soit à peu près 4 fois la France. Donc on imagine bien les enjeux qui sont derrière ça, sur un biome qui est considéré par les biologistes de la conservation comme la savane tropicale la plus riche du monde, avec une biodiversité qui est exceptionnelle, plus de dizaines de milliers de plantes, dont certaines sont endémiques. Donc les enjeux en termes de biodiversité sont considérables.
Et les efforts en la matière, Stéphane Guénot, qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement, par l'État, pour protéger justement Cerrado? Est-ce qu'il y a des politiques un peu comparables à celles qui ont été mises en place justement pour la forêt tropicale, qui ont montré quand même une certaine efficacité, même si, je le disais, la déforestation est repartie un peu à la hausse pour 2015, mais disons que la tendance est plutôt à la baisse. Est-ce qu'on a des mesures qui ont été prises sur ce territoire en particulier?
Alors, il n'y a pas de mesures particulières qui ont été prises sur ce territoire par le gouvernement brésilien. Il faut bien comprendre que le Cerrado, ça a été, et c'est toujours, la soupape de l'Amazonie. C'est-à-dire que si vous protégez l'Amazonie, vous avez le Cerrado qui est juste à côté, et donc en protégeant l'Amazonie, il y a un effet de fuite, alors difficilement mesurable, certes, mais il y a une zone qu'on appelle Mato Piba, hein, qui recoupe 4 états au nord du Cerrado, à la proximité donc de l'Amazonie, et sur lequel là on a vraiment c'est le nouveau front de déforestation, on va dire, hein, ou front de conversion en agriculture ou en pâturage. Donc les politiques jusqu'à présent, elles ont un peu il n'y a pas eu vraiment de politique sur le Cerrado. Il y a eu des initiatives des ONG, il y a eu un plan qui a été fait par le ministère de l'Environnement, mais qui n'a jamais été appliqué sur le Cerrado, un plan de lutte contre la déforestation. Donc, les initiatives, elles sont plutôt privées. Elles ont tendance à être privées à travers du travail pour l'instant des entreprises ou des secteurs, notamment le secteur de la viande qui essaye de l'élevage bovin là, qui essaye de se structurer pour mettre en place des mesures d'intensification permettant d'éviter d'avoir justement une déforestation due à de l'élevage extensif. C'est ce type de mesure pour l'instant qui est en place, mais c'est très très limité, extrêmement limité.
Jean Guénolet Corneille, puis je vous redonne la parole, Stéphane Guénot. Je voudrais vous entendre, parce que ce qu'on entend là à travers cet exemple du Cerrado, c'est finalement l'un des effets peut-être un peu pervers d'une surmédiatisation, d'un surinvestissement politique sur cette région de l'Amazonie. Alors évidemment, tout ça est bien utile quand on fait de la diplomatie forestière, on en parlait, mais ça peut aussi avoir des effets contre-productifs.
Oui, c'est certain, les chiffres sont là, mais je voudrais revenir sur un point qui est important, et je crois que la façon, on a souvent une idée très précise de la façon dont les autres devraient exploiter leurs propres ressources, et on se met rapidement dans des schémas structurels politiques qui sont intenables. Il y a un principe de réalité qui veut que lorsque un hectare de terrain vous produit 100 dollars par an, et si vous pouvez faire qu'il produise 1000 dollars par an, eh bien, vous allez être naturellement tenté. Et le fait de ne pas passer à ce niveau de production va avoir des implications en termes, y compris humains, de développement locaux, qui sont tout à fait importants, et c'est au pays auquel revient la souveraineté de faire ces décisions-là. Je prends le cas de la France, la façon dont ce sujet a été traité, ça a été, et c'est la mission de l'Office national des forêts sur le territoire et de l'ONF international, c'est de faire en sorte que l'ensemble des services générés par les forêts, au-delà de la seule valeur du bois, mais l'ensemble de ces services soient connus des acteurs politiques, de façon à ce que leurs décisions soient effectivement pesées à hauteur des enjeux qui sont là. Mais la décision de dire que le Brésil doit défricher son Cerrado ou non est une décision qui appartient au Brésil. Par contre, force est de constater que dans bien des cas, les décisions étaient prises sur la base de quelques indicateurs typiquement la rentabilité de l'élevage par rapport à l'exploitation de forêts non optimisées, sans prendre en compte tous les aspects des enjeux globaux, mais également de régulation hydrique, de fertilité des sols, etc. Et donc on se retrouve très souvent sur des phénomènes dans les pays les plus avancés de réversion, où on retrouve, on remet en place un certain nombre de massifs de forestiers. Et donc d'éviter que ces processus fassent un tel phénomène de yo-yo, c'est le rôle qu'on peut avoir. Après, la décision est une décision qui revient au pays.
Et sur cette question-là de la forêt, le Brésil sait y faire. En tout cas, elle veut garder le contrôle absolu sur cette question-là. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Guénot d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis Brasilia. Je rappelle, chercheur au CIRAD, le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, et également chercheur à l'Université de Brasilia. Flashing light years, what would it take to get back to the blackness? Up there, out there, what I'm gonna be like. Un grand merci à vous. Jean Guénolet Cornet, je rappelle, le directeur général de l'ONF International, qui est donc la filiale à l'international de l'Organisation nationale des forêts. De l'Office, pardon, pourquoi l'Organisation ? L'Office national des forêts. Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. On peut retrouver bien sûr nos discussions sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde.